cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 18 janvier 1993.
Je vous ai dit la dernière fois, comment, si nous reprenons le problème de la métaphysique, de la philosophie première, aujourd'hui, dans cette fin du XXe siècle, nous devions essayer de comprendre cette réflexion de philosophie première sur la personne. Ébauches, je dirais comme les appels en psychologie. Charles Audier, parce que je crois que c'est celui qui a le mieux explicité le problème au plan psychologique et de la manière la plus intelligente. Existentielle. qu'il y a de propre à cette expérience. Mais une expérience, voyez, vécue. Et en dépassant le vécu, une expérience qui nous fait toucher la réalité dans la lumière de la substance et de l'acte. Oui, il faut bien préciser à quel niveau on se situe. Étant donné que tous ces points de vue que je vous ai donnés, aucun ne se place à ce point de vue-là. Il y a là quelque chose d'original et qui, je crois, est le seul qui rejoint, je dis bien rejoint, ce que dit saint Thomas en théologien. Oui. Autrement dit, nous ne faisons pas comme Suarez. Et je crois que ça, c'est important de bien. Et c'est peut-être là où on peut réfléchir sur ce qu'a fait Suarez, l'erreur qu'il a faite, et que nous ne devons pas tomber dans le panneau. Et c'est important pour nous, parce que je crois que la métaphysique ne peut être saisie aujourd'hui dans toute sa force que si on va jusqu'à ce problème-là. Autrement, nous risquons tout le temps de ne pas comprendre le réalisme de la métaphysique. On restera dans l'analyse. La saisie des principes, c'est très bien. C'est l'essentiel, la saisie des principes. Mais la saisie des principes réclame pour nous ce retour à l'expérience. Autrement, on risque tout le temps de comprendre la métaphysique, la philosophie première, la philosophie tout court, comme quelque chose d'abstrait au niveau universel. Alors que la métaphysique s'achève dans une vision concrète. Mais un concret qui n'est pas l'expérience première. Et c'est ça le point délicat. Un concret qui présuppose toute l'analyse et la saisie des principes. Et tant qu'on ne voit pas ça, tout le problème suivant, c'est-à-dire des voies d'accès vis-à-vis de Dieu, le problème du passage de la philosophie première à la théologie naturelle, n'est pas compris. Alors, pour Suarez, je l'ai déjà dit, mais je le reprends ici parce que là nous sommes à pied d'œuvre. Pour Suarez, on explicite à partir de la théologie, j'allais dire, il y a une conceptualisation de la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique présente dans la théologie, se présente à nous? Ce n'est pas la philosophie première, ce n'est pas la philosophie liée à l'expérience humaine impliquant l'analyse. C'est nous analysons en interrogeant et nous saisissons les deux principes, il y en a que deux, la substance, l'être en acte, puis la propriété, l'un au niveau de substance, l'un au niveau de l'être en acte. Et voyez, déjà la propriété, c'est la propriété de l'être existant, vu dans la lumière du principe, c'est-à-dire dans la lumière de la substance, dans la lumière d'être en acte. Et il y a un dernier effort, c'est de saisir à partir de là la personne. saisir la propriété. On voit très bien, la science, la connaissance scientifique n'existe que lorsque, après avoir saisi les principes propres, on regarde la propriété. Quand on dit que la métaphysique n'est pas une science aux banques, c'est pas une science, il ne saisit pas la conclusion propre de la connaissance philosophie première. On ne saisit pas comment la philosophie première aboutit à préciser la propriété de ce qui est. Or, une propriété ne se situe pas au niveau des principes, mais au niveau de l'être existant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a l'analyse des principes, la saisie de la propriété. Et puis, parce qu'on est en philosophie première, parce que la métaphysique de l'être en acte et en puissance implique cette diversité, il y a un dernier effort métaphysique de regarder comment la substance et l'être en acte qui implique toutes ces modalités se retrouvent dans l'unité de la personne assumant la diversité et donc formant ce tout qui est la personne, ce tout que j'expérimente exactement comme l'un, propriété, je l'expérimente. J'ai l'expérience de l'un, comme j'ai l'expérience de ce qui est. Mais j'ai l'expérience de l'un comme propriété de ce qui est. Et c'est là la connaissance scientifique au sens aristotélicien. On connaît l'un à travers la substance. On connaît l'un à travers l'être en acte. Au principe métaphysique. Et je connais ce tout à travers les principes et la propriété. Alors, ne disons pas que la personne est propriété de l'être. C'est le point de vue délicat. L'un est propriété de l'être. La personne n'est pas propriété de l'être. Si la personne était propriété de l'être, vous verrez partout où l'être est parfait, il y a la personne. Il y a quelque chose de juste, du reste. L'être parfait est vivant. L'être parfait est esprit. L'être parfait est personne. Alors, sonne d'une certaine manière, est bien propriété de l'être parfait. De l'être dans son sommet. C'est la propriété. Mais je dis bien, il y a propriété de l'être et propriété de l'être parfait. Propriété proprement scientifique et propriété d'une connaissance de sagesse. Puisque le propre de la sagesse, c'est de toucher ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de parfait. Et vous voyez, et c'est là le caractère tout à fait particulier de cette science, philosophie première. C'est que cette science implique bien une analyse scientifique. La découverte de la propriété. Mais comme cette science est la science dernière, elle doit regarder ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Or, ce qu'il y a d'ultime dans l'être, c'est premièrement ce qu'il y a de plus parfait dans mon expérience de ce qui est. Or, ce qu'il y a de plus parfait dans l'expérience de ce qui est, c'est la découverte du « je suis ». Ce que nous allons voir tout de suite. Qui permet de poser le problème de la personne. Et là, je suis en face, non plus seulement d'une science, mais d'une science qui veut toucher ce qu'il y a d'ultime. Puisqu'il n'y a rien au-delà de la métaphysique. Donc, elle doit regarder le caractère propre de l'expérience ultime que j'ai dans le « je suis ». Et c'est cette expérience ultime du « je suis » qui va permettre de poser la question « Mais existe-t-il un être encore plus parfait que la personne humaine ?» Oui, c'est l'aspect sagesse de cette science dernière et première, qui est la métaphysique, qui m'oblige de poser le problème de l'existence d'un être qui échappe à mon expérience, mais qui existe nécessairement. Autrement dit, alors c'est ça le point de vue, comme je crois, délicat et important. Autrement dit, avec le problème de la personne, nous dépassons le point de vue strictement scientifique de la philosophie première et nous touchons quelque chose d'ultime. Mais ce n'est pas l'ultime absolu, puisque l'ultime absolu, c'est la découverte de l'être premier. Mais nous touchons l'ultime qui nous permet découvrir l'être premier. C'est déjà un regard de sagesse. C'est ça qui me semble ordonné, esse, vivere, intelligere. Ce n'est plus strictement l'aspect scientifique. C'est déjà l'aspect sagesse. Et cet aspect de sagesse prend toute sa force dans l'expérience que j'ai de « je suis », qui va m'obliger de dépasser ce dernier point et de poser la question « existe-t-il un être premier ? Existe-t-il un être au-delà de la personne humaine ?» Et cet être premier ne peut être personne dans laquelle esse, vivere, intelligere est un. Et ce sera Dieu. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que ce problème de la personne est si important. Parce que c'est comme la saisie non pas par la découverte des principes propres, mais par la découverte d'un principe ultime, d'une cause ultime, d'un être premier qu'on appelle Dieu. J'espère que vous saisissez un peu ce mouvement. Alors, voyez la différence avec la position de Suarez, qui, à partir de la théologie a ce privilège d'être immédiatement sagesse, puisqu'elle atteint immédiatement Dieu. Donc, la théologie doctrina sacra, la théologie à partir de la foi, a ce privilège d'être immédiatement sagesse, puisqu'elle atteint Dieu. Et elle utilise toute la philosophie, mais dans la lumière de la foi. Donc, la théologie reste liée à la réalité existante, mais d'une réalité existante que je n'atteins que par la foi. Je n'atteins pas dans mon expérience humaine, immédiatement. Le fait même, toute la philosophie est utilisée par la théologie. J'utilise la philosophie première en théologie. Si je l'utilise, je ne peux pas l'utiliser au niveau de l'existence, mais j'utilise d'une manière analogique. C'est-à-dire, je passe toujours du fini à l'infini. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est capable d'être au niveau même de l'existé infini qui m'est donné par la foi. Donc, l'utilisation de la philosophie se fait au niveau des rationes et non pas au niveau du jugement d'existence. Et c'est pour cela que une philosophie saisie à partir de l'utilisation qu'en fait le théologien est une philosophie des rationes et des définitions. Et c'est une philosophie qui n'implique plus l'aspect de l'induction et l'aspect radical de l'expérience. Philosophie qui va s'identifier à la critique et à la logique. Et on aura la scolastique décadente. Et vous voyez, c'est ce que je crois être très important pour nous à bien saisir. Nous essayons d'intégrer dans la philosophie première, ce que la théologie chrétienne a développé d'une manière très éminente, le problème de la personne. On ne peut pas nier. Bien que dire que le problème de la personne est un problème de métaphysique chrétienne, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce problème de la personne était déjà posé chez les stoïciens, était déjà posé chez Aristote, sans le mot, et il avait été posé aussi chez Platon. Mais le mot personne n'y était pas, mais le mot personne est chez les stoïciens et les néoplatoniciens. Donc, on ne peut pas dire que ceci provient de la théologie et de la foi chrétienne, de la théologie chrétienne et de la foi chrétienne. On ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est que la théologie chrétienne a mis en pleine lumière le problème de l'essai. L'essai participer et le problème de la personne. Alors ça, oui. Il a mis en pleine lumière. Moyen-Âge jusqu'à Bellarmin. Des grands théologiens qui ont développé énormément le problème de l'essai et le problème de la personne. Ceci oblige la philosophie, la métaphysique, qui, de fait, s'élabore indépendamment de la métaphysique, indépendamment de la théologie chrétienne, de mieux regarder le problème de l'essai et le problème de la personne. Oui. Autrement dit, autre chose est d'apporter une matière nouvelle au regard philosophique. Autre chose est d'apporter à cette philosophie un nouveau principe. Ce qu'on peut dire, c'est que la théologie chrétienne apporte aux philosophes une matière nouvelle, mais n'apporte pas de principe nouveau. Ça, je crois qu'on peut bien comprendre cela. La théologie chrétienne apporte aux philosophes une matière nouvelle. La spéculation très poussée sur la création de Thomas d'Aquin et la spéculation très poussée sur la personne. La spéculation très poussée sur la providence et donc la liberté. Comment l'acte humain reste libre? On le verra après ça. On verra après le point de vue. Du moins, on le verra avec le problème de la création. Et c'est vrai que ce sont des trois grands problèmes que le christianisme apporte dans sa spéculation théologique et que le philosophe doit regarder. L'essai, le point de vue de la personne et le point de vue de la liberté. Trois grands problèmes qui demandent d'être développés beaucoup plus que ne l'était avant, quand on était uniquement en présence des traditions religieuses. Mais ces trois problèmes n'apportent aucun principe nouveau à la philosophie, à la métaphysique. Aucun principe nouveau. Cherchez, vous me le direz, si vous découvrez un principe nouveau. Or, une science est nouvelle si elle a un principe nouveau. Là, c'est un champ d'extension. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est un problème analogue avec les rapports de la philosophie et de la science moderne. La science moderne apporte une matière nouvelle à la spéculation philosophique, mais n'apporte aucun principe nouveau. Alors, vous pouvez essayer, et c'est vraiment le problème de la personne qui montre ça de manière la plus nette, vous pouvez comprendre que cette spéculation sur la personne qui implique esse, vivere, intelligere, le fruit direct des diverses modalités de l'acte nous fait comprendre comment cette philosophie première, par la théologie chrétienne, par le développement des sciences modernes, doit trouver son cheminement propre tout en se servant d'une matière nouvelle, si j'ose dire, une matière nouvelle très développée, des conclusions se fait du côté de la finalité. De l'autre côté, c'est du côté de la matière. Ça donne un nouveau champ de réflexion. Ça donne une extension au savoir humain, à la connaissance humaine, d'un côté théologique, de l'autre côté scientifique, moderne. Et c'est à travers ce développement que le philosophe maintient ce point de vue de l'homme, le point de vue d'exister. Du côté de la théologie chrétienne, le jugement d'existence est un jugement de foi, mis entre parenthèses, pour le philosophe. Le philosophe n'a pas le droit, en tant que philosophe, de se servir de la foi. C'est sûr. Parce qu'il sait que la foi dépasse toutes mes expériences humaines. Et le philosophe, en tant que philosophe, comprend que le développement des sciences modernes met entre parenthèses le jugement d'existence « ceci est » et le « je suis ». Aucun jugement scientifique de sciences modernes n'explicite en acte le jugement d'existence. Et le « je suis ». Et donc, n'apporte pas une nouvelle lumière à la philosophie première, mais apporte une nouvelle matière à réflexion. Mais c'est ça qui est très curieux. Et la philosophie, à la théorie du développement scientifique, fait que pour certains, la philosophie n'a plus besoin d'exister. Mais juste exister. La science seule a le droit de citer. La philosophie est un peu, comprenez bien, est un peu coincée entre les deux. La science, avec l'idéologie positiviste, veut supprimer la philosophie. La philosophie, c'est la connaissance des enfants. Pourquoi ? Elle repose sur l'expérience et non pas l'expérimentation. L'expérimentation implique la critique avant l'expérience. C'est le propre de l'expérimentation. Tandis que la philosophie n'implique pas la critique avant l'expérience. Elle veut saisir l'intelligence liée au sens, à l'état pur. J'allais dire, dans son état d'innocence. Et c'est vrai, c'est l'état d'innocence. Ceci existe, l'état d'innocence. Alors que la science n'a pas d'état d'innocence. Elle présuppose les mathématiques. Et les mathématiques, c'est pas l'état d'innocence. C'est l'homme. C'est l'homme qui a eu cet aspect génial de la découverte des mathématiques. Et c'est très curieux, c'est que les mathématiques ont été découvertes avant la métaphysique. Au moins dans notre philosophie occidentale. Dans l'Inde, c'est différent. Parce que l'aspect religieux a découvert une philosophie et une métaphysique avant le développement des sciences. C'est là, on peut dire, le point de vue de l'Inde et le point de vue de l'Occident sont très différents actuellement. D'un côté, le développement de la science, le développement d'une philosophie religieuse a maintenu une philosophie éthique religieuse Inde a développé une métaphysique. Ça, c'est sûr. Une philosophie de l'être. Et à d'autres moments, tout est retombé dans une sorte de tradition religieuse. Et la philosophie occidentale, avec les deux apports successifs, l'apport de la foi chrétienne et l'apport du développement des mathématiques et des sciences modernes, la philosophie occidentale a connu deux saignées énormes, la théologie et le développement des sciences, à tel point qu'elle se demande de temps en temps si elle a encore le droit d'exister. Je crois que ça nous montre bien la situation devant laquelle la métaphysique se trouve actuellement. Et à la place de faire comme Suarez, nous disons non, il faut reprendre le problème philosophique dans toute sa pureté, à partir du jugement d'existence, ceci est. Ceci, c'est pour vous montrer l'intérêt et l'importance de cette réflexion métaphysique sur la personne et ce qu'elle a de tout à fait caractéristique, de tout à fait propre. C'est une partie de la métaphysique que nous devons élaborer ensemble, que nous devons faire ensemble, qui n'est ni l'aspect purement scientifique, mais qui nous fait entrer dans le premier moment de la sagesse. C'est pour ça qu'on dira facilement que c'est synthétique, c'est une synthèse, c'est pas une synthèse. Je regrette. La philosophie n'a pas de synthèse. Elle aboutit à la contemplation. Mais avant d'aboutir à la contemplation, il y a cette réflexion sur la personne humaine. Et qui est très propre à la personne humaine. Je n'ai pas une partie propre de la métaphysique, de la philosophie première, en réfléchissant sur l'animal. La métaphysique de la vache. Non. Je ne fais pas de métaphysique de la vache. Je ne fais pas de métaphysique de l'araignée. La vache étant le modèle du concupiscible et l'araignée de l'irascible. La bonne vache. La vache laitière. C'est le concupiscible. C'est le lait, le premier concupiscible que nous connaissons. Non, le lait, et quelquefois qui demeure toute la vie. Et l'irascible, c'est l'araignée. Mais on ne fait pas de métaphysique de la vache et de l'araignée. Mais on fait une philosophie première de la personne humaine. Pourquoi? Parce que le vivere implique l'intelligere pour l'homme. Ma vie s'achève dans la réflexion intelligente qui permet d'avoir une connaissance de l'être tout à fait particulière, ce que nous allons essayer de comprendre. Vous voyez, il y a là quelque chose que vous ne trouverez pas dans la scolastique, que vous ne trouvez pas dans saint Thomas, que vous ne trouvez pas dans Aristote. Peut-être qu'Aristote a élaboré ce problème, je n'en sais rien. Parce qu'il y a un livre qui est dans les catalogues d'Aristote, mais qu'on a perdu. Si vous le redécouvrez, vous serez génial. Il y a un livre qui est perdu, le Peritouteo, le traité sur Dieu. Et pour Aristote, ça aurait été ce traité sur Dieu qui aurait traité de la création et qui peut-être aurait exigé le philosophe de regarder en face la créature qui seule implique pour elle seule un acte propre du Créateur, la personne humaine. Chacun d'entre nous, nous avons un dialogue personnel avec Dieu, avec le Créateur. Nous avons une audience spéciale avec le Créateur. Tandis que l'univers, dans sa totalité, n'a pas là, dans sa totalité. D'où, si on ne voit pas le point de vue de la personne comme un tout, on aura la tentation de regarder la philosophie dans une perspective de synthèse par rapport à l'univers. Le tout. Et on tombera dans une sorte de panthéisme. Et c'est en ce sens-là que cette philosophie première sur la personne est si importante. Parce que elle me permet d'éviter les erreurs contemporaines et de donner un cheminement propre à la philosophie première. C'est pour ça que je voulais ce petit moment de réflexion pour bien situer ce que nous allons essayer de faire ensemble. Réflexion philosophique sur la personne humaine à partir d'une expérience privilégiée, l'expérience du je suis. Alors, première réflexion, c'est la différence entre le je suis et ceci est. Réflexion qui est au point de départ de la démarche sur la métaphysique et qui est au terme. Il y a deux moments de cette réflexion. Le premier moment, point de départ de la philosophie première, c'est de montrer que la philosophie première ne peut pas s'appuyer sur le je suis, ne peut pas prendre son point de départ sur le je suis. Et donc j'écarte cette terrible tentation de commencer la philosophie première par le je suis. Et je dis bien, c'est la terrible tentation de l'Occident. Et cette tentation demeure tout le temps. Et je dirais, elle est plus grande que jamais. La métaphysique s'est engouffrée dans l'expérience du je suis avec Descartes. Alors Descartes a bien dit, pudiquement, cogito ergo sum. Ergo, ça c'est le caractère pudique de Descartes. Et en réalité, cogito ego sum. C'est pas ergo, c'est cogito je suis. C'est le télescopage cartésien. Entre eux. C'est à travers l'intelligere cogito que j'atteins l'essai. D'où Heidegger pensait l'être. Mais il est moins pudique. Entre Descartes et Heidegger, il y a la suppression de ergo. Je le supprime et je pensais l'être. Et le télescopage du vivere. C'est très curieux, hein, c'est cette chose-là, quand on essaie de comprendre un tout petit peu le philosophie de l'esprit. Et la collection philosophie de l'esprit commence par Descartes. C'est ce que Sartre a montré d'une manière très élégante dans l'édition qu'il a fait de Descartes et dans la préface, en montrant que entre la philosophie moderne et Descartes, c'est la même philosophie. Il va jusqu'à dire, si Descartes vivait de notre époque, Descartes serait comme moi, athée. Si Descartes n'est pas athée, c'est parce que Descartes n'a pas purifié suffisamment sa philosophie. N'a pas été jusqu'au bout. Et ce que dit Sartre est très vrai. Si je commence par le cogito, je ne peux jamais atteindre l'existence de Dieu. Et donc, je dois dire, Dieu n'existe pas. Ajoutons, pour ma pensée, pour ma philosophie. Ma philosophie est extérieure à Dieu. Et par là, il montre, à la suite de Kant, sans le dire, que les preuves de Descartes ne valent rien. C'est de l'apologétique. C'est pas de la philosophie. Ça vaut rien. Parce qu'il y a un ontologisme impliqué dedans. On passe de l'intelligere à l'essai. Alors, il faut non pas reprendre ce que dit Descartes, c'est pas ça du tout. Il faut essayer de comprendre que si le point de départ de la philosophie n'est pas le jugement d'existence, ceci est, ce sera le je suis. Et c'est Descartes. Et c'est le monde moderne. Alors, il faut bien saisir que le point de départ de la philosophie ne peut, de la métaphysique, ne peut pas être le je suis. Parce que nous verrons ça demain. Mais je voulais, parce que certains m'avaient posé la question, où situer cette philosophie sur la personne. Et c'est vrai, c'est pas commode. Alors, je crois que si vous comprenez que la propriété de l'être, c'est l'un, et que la réflexion de sagesse de la philosophie, c'est d'abord et en premier lieu cette réflexion sur la personne humaine. Vous voyez que là, nous découvrons cette tension, je ne dis pas le drame, mais cette tension de la philosophie qui est constamment entre le jugement d'existence et le je suis, entre l'aspect scientifique dans toute sa rigueur et l'aspect sagesse.